Gabriel Vallée, il y a quelque temps, nous avions parlé de la construction de la cathédrale de Nouméa. Cette semaine, on va parler de celle du Vieux Temple.
On a vu que le culte catholique a pu s'exercer dans un édifice religieux dès 1858, dans la petite église Sainte-Clotilde, et puis naturellement dans la cathédrale, à partir des années 1893-1894. Il n'en est pas du tout de même pour les fidèles de la religion protestante, qui n'ont pas d'autre solution que de se réunir le dimanche dans la salle du tribunal mise à leur disposition par le gouvernement. Et il s'agit de l'ancien palais de justice, situé rue de la République, qui n'existe plus. Il y avait donc un pasteur. Et effectivement, le premier pasteur qui vint à Nouméa fut le pasteur aumônier auprès du pénitencier. Pourquoi ce type de pasteur? Eh bien, après la Commune de Paris, fut créé un comité de secours religieux aux condamnés de la Nouvelle-Calédonie. Et en novembre 1872, une décision du ministère de la Marine et des Colonies établit un pasteur assisté d'un coadjuteur instituteur. C'était bizarre de voir ça, un pasteur et un instituteur qui était son coadjuteur. Et le premier titulaire de ce poste est le pasteur Pierre Ray. Cela se passait le 23 janvier 1873, peu de temps après la décision du ministre. Et son coadjuteur est Frédéric Surlot, instituteur. Il n'y a pas énormément de protestants à cette époque, bien sûr. Il y a à peu près 200 colons libres et des administrateurs, des administratifs aussi. Il y a 100 déportés de la commune, à peu près, qui sont protestants sur les 4000. Et puis, il y a entre 200 et 250 forçats. Mais eux, ils ne fréquentaient pas du tout la religion. Mais enfin, il y avait un certain nombre de protestants. Alors, Ray va pas rester longtemps, parce qu'il va démissionner en août 1875. Et c'est à sa demande que le ministère avait mis à disposition des protestants la salle de l'ancien palais de justice, le dimanche matin. Alors, après le départ de Ray, en 1876, arrive le pasteur Léonard Charbonneau. Il est accompagné de son coadjuteur instituteur aussi, c'est Pierre Russier, le mari de Suzanne Russier, premier instituteur, première institutrice. Il va séjourner 10 ans à Nouméa, ce pasteur Charbonneau. Il va recevoir l'autorisation de rassembler les familles protestantes le dimanche dans une autre salle, une salle du nouveau palais de justice. Ce palais de justice qui est occupé aujourd'hui par le théâtre de Poche. Mais cette salle était insuffisante, surtout pour les grands mariages. Alors, c'est le pasteur Charbonneau qui, le premier, songea à l'édification d'un temple. Alors, il cherche un terrain, aidé des fidèles qui sont avec lui, et le choix se porte sur un terrain situé sur la pente ouest de la colline du Sémaphore, dans le prolongement de la rue de l'Alma, tout à fait en haut de la rue de l'Alma. C'était un site qui était très beau, d'ailleurs. Et le pasteur rend visite au gouverneur de Prisbourg. À l'époque, c'était ce gouverneur. Et il réussit à le convaincre. Et le gouverneur va prendre, le 23 juin 1877, un arrêté affectant un terrain de la ville de Nouméa, mesurant 60 ars, à l'est du boulevard Vauban, à titre gratuit, pour la construction d'un temple.
Gabriel Vallée, les protestants ont donc un terrain, boulevard Vauban, pour construire le vieux temple. Que se passe-t-il ensuite?
Les fidèles lancent une souscription publique et des dons généreux arrivent de Nouméa, de Brousse, de France et même de l'étranger. Hélas, comme pour la cathédrale, la faillite de la banque Marchand, la banque de Nouvelle-Calédonie en novembre 1877, qui met l'économie du territoire dans une situation précaire, va faire arrêter cette campagne du pasteur Charbonneau. C'est l'insurrection de 1878, ensuite, si bien qu'il faut attendre 1884 pour envisager des jours meilleurs et le pasteur retourne voir le gouverneur. C'est un nouveau gouverneur maintenant. C'est pas lui de la barrière. Celui-ci est également convaincu et il nomme une commission pour étudier les différentes questions de soutien à cette construction du temple et d'organisation d'une souscription. Il y a d'importantes personnalités dans cette commission. Bon, le directeur de l'intérieur, le chef d'escadron de la gendarmerie, messieurs Puech, Laumont, Auguste Martin, John Morgan, Frédéric Surlot, Pierre Russier, et le maire, bien sûr, les pasteurs Charbonneau, bien sûr, les pasteurs Scott et Stilling, qui sont aux îles Loyauté. Et alors, plusieurs réunions ont lieu, et le gouvernement fait procéder aux travaux de terrassement. Les murs s'élèvent rapidement, mais les fonds s'épuisent tout aussi rapidement. Et ce sont uniquement des fonds obtenus de souscription. Et le pasteur Charbonneau doit quitter Nouméa en 1886, suite au décès de son épouse, qui était âgée de 38 ans seulement. Elle est enterrée d'ailleurs au cimetière de 4e kilomètre. En 1886, le 7 novembre, arrive le nouveau pasteur, François Langereau. Les travaux sont arrêtés à ce moment-là, mais il n'y a plus d'argent non plus. Alors le nouveau pasteur va relancer une souscription publique et écrit au Conseil général pour demander une subvention de 30 000 francs. Malgré un déploiement d'arguments, cette demande est repoussée le 10 septembre 1888. Le pasteur Langereau, qui est tenace, confiant, il renouvelle sa demande en août 1890. Il demande 30 000 francs, mais en disant qu'il faudrait au moins 60 000 francs pour terminer les travaux et que la dernière souscription a rapporté que 8 000 francs. Il obtient une subvention de 5 000 francs. C'est pas suffisant du tout, mais entre-temps, c'est une grande salle du bâtiment de l'imprimerie du gouvernement, qui est au boulevard Vauban, juste à côté, et qui deviendra la salle de délibération du Conseil général, d'ailleurs, qui est mise à la disposition des protestants. C'est mieux que les petites salles là-bas du tribunal. Alors le public est toujours généreux, dévoué, il va souscrire régulièrement, et en 1891, le chantier continue, à la mesure des moyens, et à l'aide de la main-d'œuvre pénitentiaire, parce que le gouvernement avait mis quand même une trentaine de bagnards à la disposition des constructeurs. Les finitions des aménagements intérieurs avancent peu à peu. Enfin, c'est l'inauguration qui se déroule le dimanche 18 juin 1893.
Feuilleton l'histoire sur Radio Rythme Bleu.
Gabriel Vallée, racontez-nous l'inauguration du vieux temple le 18 juin 1893.
Le temple était trop petit pour contenir tout le monde. Il y avait les paroissiens, bien sûr, il y avait les notables, le gouverneur. À l'époque, c'est Albert Piquier, qui ne va pas rester longtemps. Les chefs de service, les conseillers généraux, les conseillers municipaux, et beaucoup de catholiques également. La belle éloquence du pasteur Langereau, qui est très ému, bien sûr, qui est aussi très heureux, va impressionner beaucoup la foule. Une éloquence avec beaucoup de confraternité religieuse, c'est ce que dit la presse locale, bien sûr. Alors, parmi les premiers enfants à renouveler leur vœu de baptême, peu de temps après, 8 étaient des enfants de la famille Russier, 7 étaient des enfants de la famille Surlot, il y avait aussi Paul et Fernand le Riche, qui étaient descendants de Padone. Il faut noter également que quelques années plus tard fut construit le beau presbytère. Il est achevé en 1895. Un très beau bâtiment qui domine pratiquement le temple protestant. En 1900, grâce à un don important d'un paroissien et une souscription, la communauté peut acquérir au prix de 25 000 francs or un petit orgue construit en janvier 1872 à Sydney. On doit rappeler que lors de l'inauguration, en 1893, là, l'escalier monumental par lequel on y accède aujourd'hui et qui vient d'être entièrement restauré n'a pas été construit encore. On atteint le temple par les deux chemins qui sont en pente à droite et à gauche. Ces voies d'accès avait été emprunté par les véhicules, par les charrettes, par les bœufs, les chevaux qui tiraient les pierres, qui montaient le bois, les tôles et tout ça. Maintenant, c'est utilisé par les véhicules. Et ces deux chemins ont plusieurs fois été stabilisés. Un a été d'ailleurs à nouveau stabilisé, car le sol est soumis à de rudes contraintes dans cette zone. Et lors de l'inauguration aussi, le porche d'entrée n'avait pas encore son fronton définitif au-dessus. Alors, revenons à l'orgue. L'orgue, il se trouvait dans une église presbytérienne de Sydney. Après démontage, il fut expédié sur Nouméa en mai 1901. Et cet orgue, qui a maintenant, puisqu'il a été construit en 1872, il a 142 ans, c'est l'un des quatre exemplaires connus au monde. Il est toujours là. Le premier organiste titulaire de l'orgue, c'est M. Tyndall. M. Tyndall, c'est l'homme qui était chargé de faire marcher l'usine qui produisait le gaz, au Vallon du Gaz. Parce que jusqu'en 1832, jusqu'à l'arrivée de la première liaison aérienne avec D.V. Vernet et Munch, on était éclairé au gaz. Ce soir-là, on a mis de l'électricité. Et c'est M. Tyndall qui était très apprécié, qui s'occupait de ça. Et c'était l'organiste aussi. Il faisait du tennis, c'était un grand sportif aussi. Et d'ailleurs, la rue Tyndall, c'est la rue qui était au Vallon du Gaz, pour qu'on se rappelle de ce personnage.
Gabriel Vallée, le vieux temple est inauguré, il va connaître encore quelques aménagements.
En avril 1902, le pasteur Langereau quitte Nouméa et le poste d'aumônier du pénitencier est supprimé. Les deux pasteurs Charbonneau et Langereau ont été les artisans de ce monument historique qui est le temple de Nouméa, le vieux temple, comme on l'appelle, qui a été classé monument historique de la province sud en 1992. Une plaque commémorant l'œuvre de ces deux pasteurs, a été placée sur la façade ouest du temple, à gauche du porche, le dimanche 31 août de 2008, par l'association de sauvegarde du patrimoine classé du vieux temple de Nouméa. On voit à côté du temple de Nouméa le foyer fraternel entre le temple et le congrès. Grâce aux notes du pasteur Marcel Ariège et des documents de son fils, le pasteur René Ariège, qui est retraité à Neuchâtel, on peut dresser l'historique de ce bâtiment, situé boulevard Vauban, donc, à cet emplacement. Lorsque le pasteur Charbonneau établissait les plans du temple, les premiers plans, il prévoyait une salle de lecture située sous la tribune de l'orgue, à l'entrée du temple. Dans les églises réformées, on avait l'habitude d'avoir des locaux où les jeunes pouvaient se retrouver, de même que les soldats ont permission, et où les catéchumènes pouvaient se réunir, ainsi que les études bibliques, l'instruction religieuse, etc. Mais cela n'a pu se faire lors de la construction du temple. Il n'y avait pas assez d'argent. Ces locaux faisaient cruellement défaut, et il faut attendre l'arrivée des Américains pour que ces locaux puissent être construits. C'est en 1940 que le pasteur Marcel Ariège arrive au vieux temple après avoir passé 4 ans à Doneva. Là-bas, il était chargé de l'enseignement. C'est un homme très actif qui s'investit dès le départ dans de nombreuses manifestations, avec Mgr Bresson d'ailleurs, pour trouver des fonds en faveur du bataillon du Pacifique, de la Croix-Rouge, d'ailleurs. Il sera vice-président de la Croix-Rouge d'ailleurs. Et le 12 mars 1942, les Américains arrivent.
Feuilleton l'histoire sur Radio Rythme Bleu.
Gabriel Vallée, l'arrivée des Américains en 1942 sera décisive pour le développement du vieux temple.
Le 12 mars 1942, les Américains arrivent. Et dès l'après-midi, c'était un jeudi ce 12 mars 1942, dès l'après-midi ce jeudi-là, l'aumônier américain, qui s'appelait John Franklin, il appartenait à la 182e division, il vient voir le pasteur Ariège. Il souhaite pouvoir célébrer des cultes en anglais dans le beau temple qui domine la ville. Ils l'ont vu de suite, ce temple-là, on loue la rue de l'Alma. Alors il souhaite pouvoir célébrer des cultes en anglais dans le beau temple et dès le dimanche suivant, c'est-à-dire dès le 15 mars, trois jours après, dès le 15 mars 42. Naturellement, le pasteur Ariège donne son accord et tous les aumôniers américains des diverses églises presbytériennes, il y en a, les méthodistes, les adventistes, les pentecôtistes, tout ça, ils vont célébrer dans le vieux temple jusqu'à 6 cultes par jour d'ailleurs. Et en semaine, il y avait des réunions de prières et des études bibliques. Et très vite, l'affectation des offrandes dominicales se posa au pasteur Ariège et aux aumôniers américains, et néo-zélandais, et australiens. Au lieu de les emporter et de les affecter aux œuvres de bienfaisance émanant des armées, ils vont préférer les offrir à la paroisse. Alors le conseil presbytérial, qui souhaitait depuis toujours avoir des locaux paroissiaux, trouve là peut-être une possibilité. Alors les aumôniers américains et les alliés furent d'accord pour consacrer ces offrandes à des bâtiments. Donc il fut décidé qu'une partie de l'argent servirait à construire un foyer près du temple et une autre partie pour un temple à Donneval. Et c'est ainsi que le foyer fraternel fut inauguré et fêté le samedi 28 avril 1945 et meublé grâce à la générosité de l'US Navy. C'est ce bâtiment qui rappelle la générosité des troupes américaines venues défendre la liberté. Il nous rappelle aussi la persévérance et l'action efficace du pasteur Ariège et de son comité paroissial. Il faut se souvenir aussi qu'une rue qui monte derrière le temple, qui vers la FOL, porte le nom de ce pasteur, c'est la rue Ariège.